F.I.
Alors, on dit quoi ?
Hello, c'est Diara. Je suis ravie de vous retrouver dans notre émission Alors on dit quoi ? L'arbre à palabre de la jeunesse africaine. Ici, le micro est à nous, nous les jeunes. C'est notre moment et on parle de tout sans tabou. Et justement, on va parler librement de la sexualité aujourd'hui. La sexualité englobe tout ce qui a trait à notre vie sexuelle, que ce soit le désir, le plaisir, la relation en couple ou la reproduction. En Afrique, comme ailleurs, l'éducation à la sexualité demeure tabou dans beaucoup de familles, quel que soit le milieu social, la religion ou le pays. Sujet délicat, mais d'une importance capitale, on a voulu savoir ce qui maintenait cette barrière à l'éducation sexuelle, ce voile autour de ces thématiques qui nous concernent tous. Les jeunes et adolescents ont pourtant besoin d'être amplement informés afin d'éviter les conséquences, parfois graves, qui peuvent découler de leur rapport à la sexualité. On peut citer ici la fréquence de grossesses non désirées, les avortements illégaux qui engendrent des complications médicales ou encore la recrudescence des maladies sexuellement transmissibles. Au programme également, la présentation des rendez-vous sexcare des ateliers féminins où là encore, on parle de sexualité librement, rencontre avec l'une de ses cofondatrices, Audrey. Le programme est chargé, on démarre de suite. Diarène, c'est parti.
Alors on dit quoi ? Avec Diarène Diaye.
Aujourd'hui, on parle de sexualité, plus précisément des tabous autour de cette thématique et notamment l'éducation à la sexualité et l'accès à l'information. C'est important d'aborder ce sujet parce que la sexualité, c'est une fonction naturelle, mais c'est aussi une fonction sociale et relationnelle. C'est pour cela qu'il existe un besoin d'éducation avec des règles pour bien vivre sa sexualité et l'éducation. Et là, pour que l'on soit plus à l'aise, mais aussi et surtout pour nous protéger, pour protéger les plus faibles, pour inciter à respecter l'autre et nous respecter nous-mêmes. Avec moi, pour en parler, Axel Ndiatike, qui est créatrice du podcast Me, My Sex and I, consacré à l'intimité des femmes noires. Elle est également auteure et militante féministe, particulièrement investie sur les questions liées à la sexualité. Bonjour Axel.
Bonjour Diarra.
Également avec nous en plateau, Adira Tou, qui elle est journaliste et fondatrice d'Afro, le site, un blog sur les afro-descendants nés en France.
Oui, c'est ça.
Bonjour à vous, Adira Tou.
Bonjour, Diarra.
Avec nous en ligne cette fois, nous avons Stella Tienrebeogo, qui est psychologue et sexologue. Bonjour Stella.
Bonjour tout le monde.
Merci les filles d'avoir accepté notre invitation. Nous avons voulu savoir comment les jeunes parlent de sexualité au Congo et surtout avec qui, quelles sont leurs angoisses à ce sujet et est-ce que les parents abordent ce sujet et si oui, comment ? Je vous propose à présent de suivre ce reportage de notre correspondant au Congo, Berdi.
En Afrique, parler sexualité reste un sujet tabou. S'agissant des canaux d'information sur cette question, Juste Nzaou, 28 ans, commerçant dans un quartier populaire de Brazzaville au Congo, évoque ses sources d'informations.
Sur les raisons de sexualité, je m'informe dans les réseaux sociaux, plus précisément dans les groupes WhatsApp. Souvent, on peut commencer par un sujet. Par exemple, on peut parler de l'orgasme de l'homme. Et chacun de nous donne son avis. Il y a parmi nous les plus expérimentés, il y a les moins expérimentés. Et tout cela nous aide à mieux comprendre la sexualité par rapport aux expériences que nous avons acquises durant notre temps de sexualité au cours de nos relations.
Si pour Juste Nzaou, c'est dans les groupes WhatsApp avec d'autres jeunes qui s'informent, pour Jonelin Kou, étudiante en Master 1 de communication d'entreprise et journaliste stagiaire dans un média en ligne de la place, c'est l'église sa source d'information.
Sur les questions de sexualité, je m'informe à l'église. Le conducteur ou le pasteur, il organise une rencontre des jeunes où il nous instruit sur les questions de sexualité, les questions de partenaires, comment se protéger pour ne pas tomber dans la fornication, pour ne pas tomber dans tous ce genre de péché.
Caleb Mwanda, étudiant en deuxième année à la faculté des sciences économiques de l'université Marion Gwabi de Brazzaville, parler de sexualité, c'est ouvrir une brèche à l'impolitesse, pour ne pas dire que c'est un sujet tabou. Ses parents n'abordent jamais ce sujet avec eux.
Bon, avec des parents, aborder une question concernant la sexualité, c'est un sujet très difficile. Et d'après mes parents, c'était un sujet, je peux dire, que fictif. D'après eux, qu'on ne devait même pas en parler. Parce que une fois, si on abordait de telle sorte qu'ils se disent que ils peuvent nous encourager, aller s'engager dans des relations à tel point qu'ils ne voulaient pas en parler, donc on gardait quoi, faire c'est comme si le sujet n'existe pas pour eux. Pour eux, donc, c'est comme une façon de nous protéger. D'après eux, que le sujet de la sexualité pousse aussi les enfants à se tenir, disons, à la hauteur de parler d'une manière bizarre aux parents. Donc, c'est une voie, quoi.
Pour Barthélémy Bouillou, père de trois enfants, parler du sexe à la maison doit être abordé de façon distincte. Papa se cherche des garçons et maman des filles.
Bon, le sujet de la sexualité, bon, chez moi, la sexualité, bon. Disent certains c'est un tabou, mais chez moi c'est pas vraiment un tabou parce que j'ai des filles, j'ai aussi des garçons. J'aime parler sexualité avec mes enfants, donc les garçons. Et puis souvent les filles sont à la charge de leur maman. Hein. Voilà comment moi j'aborde la sexualité chez moi.
Et pourtant, il existe des ONG censées sensibiliser et informer les jeunes sur ces questions de sexualité. À l'ACBF, Alicia Onuamu parle de son rôle et celui de son association.
En tant que membre volontaire, notre mission est de sensibiliser, de conscientiser les jeunes sur la santé sexuelle et de la reproduction et qu'on appelle souvent la SSR et tout, les méthodes contraceptives, éviter les rapports sexuels précoces et grossesses sexuelles précoces et tout ce qui va de pair. L'ACBF a pour mission de conscientiser la population congolaise. Elle informe la population congolaise sur la santé sexuelle et de la reproduction. Et elle permet aux personnes démunies de bénéficier de ces offres-là.
Aujourd'hui, il serait temps que cette question soit abordée sans tabou dans les familles africaines. Car jouer à l'hypocrisie peut être fatal pour l'avenir des enfants. Parlez et créez le dialogue. Faites sortir vos enfants de la torpeur dans laquelle ils sont plongés.
Parler et créer le dialogue. Alors on va justement en parler. On va commencer par recueillir justement vos impressions. Stella, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes sexologue justement et psychologue. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce reportage ?
Bonjour, donc je suis Stella. Ce qui m'a frappé, c'est peut-être que oui, la sexualité est répétée comme tabou. Et pourtant, on en parle beaucoup. On en parle de différentes manières, mais finalement, on en parle quand même. Et peut-être pas de la bonne manière. Et peut-être que le fait de justement en parler de manière tabou et dire que c'est tabou n'arrange pas les choses.
Quand on voit justement que les jeunes s'informent à travers, par exemple, les réseaux sociaux, est-ce que ça vous étonne ? Est-ce inquiétant ?
Je trouve ça assez inquiétant parce qu'on trouve tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je comprends parce qu'ils cherchent l'information. L'information, ils la cherchent, ça veut dire qu'on doit à un moment la leur donner. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont trouver finalement sur ces groupes ? Qui va les informer ? C'est ce qui est dommage parce que l'information est possible, l'information est accessible, l'information existe. Et c'est dommage qu'il faille aller sur des groupes où on n'est pas forcément sûr d'avoir la bonne information.
À Diaratou, on a vu dans le reportage des cours d'éducation sexuelle dispensés par des pasteurs de l'Église. Est-ce une approche intéressante selon vous ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ?
Je pense que le problème est là. Si l'Église, parce que bon, on va pas faire une généralisation sur toutes les églises peut-être, bon, mais si l'Église, l'institution telle qu'elle est aujourd'hui, continue à dire que c'est quelque chose de honteux, de sale, dont il faut se sentir mal.
D'interdit surtout, parce que
voilà,
la fornication est interdite.
C'est interdit, mais du coup, si on la pratique, il y a des chances qu'on la pratique quand même, on se sent coupable. Donc tant qu'on reste dans ce discours-là, en fait, on va pas avancer. Donc les personnes vont continuer à se mettre dans des situations très dangereuses, en fait, sans savoir qu'en plus de ça, il y a aussi des enjeux de santé qui se trament en fait, derrière tout ça. Et s'il n'y a pas d'éducation claire à ce niveau-là, je pense que ça reste problématique.
Comment vous vous informiez à ce sujet quand vous étiez un peu plus jeune, on va dire la quinzaine, à l'adolescence ?
Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais la chance d'avoir... Enfin, j'ai deux grandes sœurs, notamment une dont avec qui on pouvait parler assez librement de ces choses-là. Donc, heureusement qu'elle était là. Et puis, par curiosité, on découvre le planning familial, on va voir des gynécologues jusqu'à ce qu'on trouve celle, en tout cas, parce que c'est mon cas personnel, celle qui ne juge pas, parce que c'est pas forcément un chemin évident non plus. Et justement, j'aurais voulu plus jeune qu'il y ait plus d'initiatives comme celle d'Axel, comme celle de Stella et Audrey,
et de
sexologues qui parlent en fait à la jeunesse aussi.
Et quelles étaient les principales préoccupations, par exemple, que vous aviez ?
Bah moi c'était de savoir est-ce que c'est normal de vouloir se masturber, c'est une mauvaise chose ou pas. Il y avait aussi la question du papillomavirus, qu'est-ce que c'est vraiment, comment on peut l'attraper, comment on peut l'éviter. Ça peut sembler très basique comme ça aujourd'hui, mais à l'époque je ne savais pas tout ça. Donc il y a plein de maladies aussi qu'on peut avoir sans avoir de symptômes, comment faire pour s'en préserver. Je pense au chlamydia qui est en recrudescence par exemple. Donc c'est plein d'enjeux comme ça de santé surtout qui me préoccupaient.
Et donc, c'était une relation, des discussions avec votre sœur.
Oui.
Et les parents?
C'était pas du tout un sujet qu'on abordait, hein. C'était un sujet pas du tout. C'était tu passeras de la tutelle parentale à la tutelle maritale, et en fait à ce moment-là tu te débrouilleras avec ton mari. Donc c'était
on découvre,
mais bon. La vérité, c'est que, voilà, je m'adresse à tous les parents. Si vous faites comme s'il n'y avait rien, en fait, les enfants vont vivre leur vie dehors. Et il vaut mieux que vous sachiez le plus possible ce qui se passe dans leur vie.
Oui, mais c'est marrant parce que dans le reportage, justement, on a entendu notre correspondant Bardi qui parlait d'interdit, voire que ça n'existait pas. Donc, c'est le déni, finalement. Axel?
Pour moi, oui, c'est au-delà du déni. C'est une histoire de transmission, en fait. La pierre angulaire de cette conversation, c'est la transmission. Et il y a un des jeunes hommes du reportage qui dit que parler de sexualité, c'est un sujet fictif entre parents et enfants. Et c'est quand même le moyen avec lequel on fait nos enfants, non? Donc c'est quand même très très étrange que ce soit ce qu'on transmette le plus mal à nos enfants, qui vont à leur tour faire des enfants. Ça revient à dire qu'on a honte de la manière dont on vous a conçu. Moi, il y a quelque chose à... dans cette idée-là qui me dérange viscéralement, et je pense que c'est la raison pour laquelle moi j'ai veillé, devenue mère, à avoir cette parole-là avec ma fille, parce que je trouvais que j'étais le premier interlocuteur qu'elle devait avoir.
Vous en parlez librement avec
votre fille ? On en a toujours parlé, et on en a toujours parlé en fonction de l'âge et de ce qu'elle était en mesure d'intégrer comme information et ce qu'elle avait besoin de savoir. Mais je me suis jamais dérobée à cette conversation-là, parce que pour moi c'était la meilleure manière d'une part, de la mettre à l'abri, de choses.
De grossesse précoce, de maladies.
Ou juste d'abus sexuels également. C'était également un des risques encourus quand on est une petite fille ou même un petit garçon d'ailleurs dans une maison. Et c'était aussi ma manière à moi de lui faire savoir que son désir, elle avait une légitimité à exprimer ce qu'elle était, et que c'était pas qu'une histoire de maladie, de choses qu'elle aurait pu attraper, de danger, etc. C'était aussi une façon d'affirmer la personne qu'elle était. Donc très jeune, c'est une astuce, mais je lui avais fait donner un nom à sa vulve. Donc si elle l'avait, s'il y avait eu le moindre problème, elle pouvait me dire. Monica, par exemple, a eu un problème, ou Monica me gratte, ou Monica.
Ouais.
Et c'était une façon pour elle aussi de se l'approprier. C'était une personne à part entière de son anatomie. Et ça faisait partie d'elle. Monica était elle, quoi.
Oui, oui, oui.
Donc,
c'est intéressant ce que vous dites, Axel. Parlons justement du vocabulaire. Le mot fait peur. Stella, pour certains, le mot sexualité est un gros et grand mot qui fait peur, qui fait fuir, qui gêne. Le terme de sexualité peut être lourd. Mais quand on parle de sexualité, on peut aussi parler d'intimité, de ressenti, donner des surnoms comme Monica, de besoin, de sensation. Voilà, il y a d'autres terme un peu moins de bien-être,
merci,
de sensualité. C'est ce que vous faites, vous, quand vous parlez avec vos patientes, Stella?
Oui, on peut les nommer. Après, je pense que chacun a effectivement une créativité et peut nommer. Mais je pense qu'avant de pouvoir nommer, il faut déjà voir. Je pense que la première étape, c'est peut-être une petite astuce comme ça, si on en parle, c'est de donner déjà un miroir aux jeunes filles. Je pense qu'il y a très peu de mamans qui tendent un miroir à leur jeune fille. Il faut savoir que les jeunes filles, quand elles baissent les yeux, contrairement aux petits garçons, ne voient pas leur sexe. Donc c'est déjà la première étape avant de pouvoir le nommer, c'est déjà aussi de pouvoir le voir. La petite fille, elle part un peu en retard par rapport aux petits garçons. Elle va découvrir son sexe bien plus tard. Et très peu vont avoir l'idée même de prendre un miroir, de le mettre entre les jambes et de voir ce qu'elles ont. Je pense que si on est sur la fréquence des enfants, je pense qu'on est toujours dans le juste. Si on s'adapte à leurs questions, à chaque âge, il y aura des questions. Maman, c'est quoi ça? Maman, je ressentis. Papa, voilà, regarde ça. Ça, c'est quoi? Comment on fait l'amour? C'est quoi? Comment on embrasse? C'est qui ton amoureuse? toutes ces questions arrivent de l'enfant, et si on crée le canal de communication suffisant, l'enfant continuera à poser des questions. Et je pense que c'est là le rôle des parents, c'est de créer un canal de communication suffisamment sécure et suffisamment positif pour que l'enfant puisse toujours venir et parler.
Dans le reportage, on a par exemple entendu un papa qui disait qu'il aimait bien parler de sexualité avec son fils. Et puis les filles, il laissait ça à sa femme finalement. Alors Axel, pourquoi vous nous faites une grimace?
Oui, bien sûr, j'oublie toujours que je suis à la radio, donc vous n'avez pas l'image forcément, je suis en train de faire une grimace. Parce que je trouve, je comprends, hein, je comprends la démarche. Je trouve ça déjà, c'est ce que disait Adia, c'est déjà super bien en fait qu'il aborde ces questions-là avec ses enfants. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse aussi croiser les expériences et qu'à un moment donné, un papa puisse parler aussi d'intimité avec sa fille et une fille puisse parler d'intimité avec son père et inversement? Parce que, en fait, on parle dans le cadre des relations hétérosexuelles, c'est ce qui va se passer en fait quand on va se retrouver en face d'un partenaire.
Mais c'est quand même difficile de regarder son père et d'essayer de lui expliquer.
Mais votre
vous avez
père
l'air
est
très
un
à l'aise,
homme.
Effectivement, mais
votre
c'est...
père
c'est...
est un homme à part entière et votre mère est une, je l'espère, une femme comblée auprès de cet homme-là. Et ça reste aussi un sujet et un individu. C'est pas juste votre mère. En fait, elle a une existence sexuelle, une existence en tant que sujet. Et si on ne voit pas ça incarné chez nos mères, ça va être compliqué pour nous d'être au clair avec ça. Et je pense que c'est peut-être aussi la dichotomie qu'on a entre la maman et la putain depuis 2000 ans. C'est qu'à un moment donné, on refuse l'idée que nos mères puissent incarner des femmes. Mm-hmm. Peut-être que la révolution, elle commence là, en fait.
Mais Axel, on a entendu dans le reportage, donc tout à l'heure, vous nous disiez que vous n'en aviez pas parlé à vos parents. Dans le reportage, on entendait le jeune qui nous disait que c'était impoli de parler de cela avec ses parents, que ce sujet n'existe pas. Bon, moi, ça m'a fait rire, oui, il est fictif. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'aller voir les parents, vous?
Moi, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Donc, je leur en veux pas du tout. Et encore une fois, j'avais la chance d'avoir un interlocuteur dans ma famille. Auprès de qui je pouvais me tourner pour poser ce genre de questions et qui en plus avait la casquette médicale puisqu'elle travaille dans le cadre médical aussi. Donc je pouvais lui parler non seulement de la sexualité en tant qu'objet de curiosité, qu'est-ce que c'est, moi mon corps dans tout ça, qui réagit, qu'est-ce que ça veut dire, bon voilà, des questions vraiment très intimes en fait. Mm-hmm. Et après le côté santé, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai entendu ce nom un peu bizarre en latin là, qu'est-ce que c'est que cette maladie, est-ce qu'on en meurt, bon c'est des choses qui peut paraître très bête comme ça, mais au final, je me dis, je n'ai pas d'enfant, je sais pas si j'en aurai un jour, mais j'ai plusieurs générations qui sont quand même là derrière moi. J'ai une nièce qui a pratiquement le même âge que moi, et on a une relation de confiance où, du coup, elle peut venir me poser des questions, parce que elle parle un peu avec sa mère aussi, mais il y a des moments où une mère reste une mère quand même, des parents restent des parents.
C'est ça aussi. Donc, il faut trouver la bonne personne,
le bon interlocuteur. Ou ça dépend des relations qu'on a avec ses parents aussi.
Absolument. Alors, la sexualité, c'est un peu tabou, parfois, pour certaines familles, faut le dire. Si bien que les jeunes la découvrent eux-mêmes, malheureusement, avec tous les risques que cela comporte, grossesse non désirée, transmission de maladies, etc. On a justement en ligne le professeur Jean-Pierre Elongui, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital général de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame.
Alors, vous nous avez entendu échanger autour de cette thématique depuis le début de l'émission. Vous qui êtes gynécologue en République démocratique du Congo, les jeunes qui viennent vous voir, quels sont les motifs de consultation?
Oui, merci madame. Je viens de suivre avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. C'est vraiment une réalité ici en Afrique. Les jeunes filles vont découvrir le sexe ou la sexualité dans la rue, auprès des amis. Ils vont appliquer ça parfois de façon non conforme et sans protection. Et nous avons beaucoup de problèmes parce que, je vous dis, nous avons réalisé des études ici à Kinshasa où nous avons découvert que lorsqu'on prend 100 filles à l'âge de 15 ans, près de 20% de ces filles ont déjà eu des rapports sexuels sans même protection. Et quand on arrive à l'âge de 18 ans, près de 60% de ces filles ont déjà eu des rapports sexuels. Mmh. Et avec beaucoup de conséquences, étant donné que la prévalence de l'utilisation de contraception ici est aussi faible, nous avons donc beaucoup de cas de grossesse indésirée, et ces grossesses indésirées vont se solder par des avortements provoqués avec toutes les conséquences. À part les avortements provoqués, vous avez la prématurité, les complications liées à la grossesse, d'autant plus que le tiers des grossesses qui arrivent à terme, les diagnostics de ces grossesses sont posés aussi tardivement. Les jeunes filles cachent leurs grossesses, ils viennent tardivement en consultation, ce qui veut dire qu'on ne sait même pas faire la prévention du paludisme de ces filles, parce que quand ils viennent, c'est peut-être pour accoucher. On ne sait pas faire la prévention de l'anémie, on ne sait pas faire la découverte de certaines maladies comme les troubles hypertensifs de la grossesse. Vous comprenez que même les tiers de grossesses qui arrivent à terme, ce sont des grossesses à haut risque.
Et au niveau des MST aussi, donc une sensibilisation qui est faible?
Effectivement, ces jeunes filles, je vous ai dit que dans les taux de l'utilisation des contraceptifs et ces contraceptions est très faible. Donc, il y a aussi un taux très élevé de maladies sexuellement transmissibles auprès de ces jeunes-là, de 12 ans à 17 ans ici dans notre milieu. Ici, à l'hôpital général, nous avons beaucoup de cas des jeunes filles qui viennent avec ces maladies sexuellement transmissibles.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir étayé un petit peu ces propos au niveau des conséquences. Adiaratou, je vous vois acquiescer.
Oui, je trouve que vous avez bien fait aussi de rappeler que c'est aussi le cas des jeunes hommes.
Absolument.
Et que c'est pas qu'une affaire de femmes,
ouais,
ou de jeunes femmes. Là, on a plus des chiffres parce que c'est un gynécologue qui parle, mais effectivement, ça serait intéressant d'avoir une étude aussi auprès des jeunes hommes, savoir.
Absolument.
Quel est leur degré d'éducation à ce sujet-là.
Et je pense que ce serait intéressant aussi de savoir dans les chiffres qui ont été donnés par le professeur, il dit que c'est 20% des jeunes filles avant l'âge de 15 ans. Mmh. Moi, je serais curieuse de savoir combien d'entre elles ça a été un rapport consenti.
Mmh. Ouais.
Aussi.
Ouais.
Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles elles ne parlent pas de ces grossesses, elles ne les dévoilent que dans la dernière ligne droite. Donc, il y a des paramètres aussi à prendre en compte. Pas abordé là.
Et justement, tout à l'heure, on disait tout ce qu'on peut mettre derrière le mot sexualité. Et effectivement, le mot consentement, c'est un mot qui est très important.
Oui, et on a des droits.
Et c'est important. Oui, ça ne se situe pas forcément là où on croit quand on parle de sexualité.
On a justement une auditrice, Sophie, qui voulait nous raconter son histoire. Elle nous appelle de Kati au Mali. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors Sophie, vous souhaitiez partager avec nous une histoire. On vous écoute.
Oui, merci Diarra de me permettre de partager un souvenir quand même assez traumatisant qui remonte à mon enfance. Alors j'ai appris qu'une camarade de classe s'était mariée et elle avait seulement 12 ou 13 ans et quelques temps après, elle venait plus à l'école car elle était tombée enceinte. Et par la suite, j'apprends son décès, morte pendant l'accouchement, hein, alors que je l'avais vue quelques jours avant. Et je vois encore son regard de jeune fille, alors que elle est tout simplement, elle n'était pas femme encore, elle n'était pas encore prête à être mère.
Très très difficile. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sophie. Axel, c'est douloureux. On parle des conséquences, mais il y a des conséquences irrévocables finalement.
Mais le témoignage que vient, ça aurait pu être ma mère, en fait. Voilà, c'était exactement le cas de ma mère. Elle n'est pas morte en couche, mais elle avait effectivement 12 ans. Et à 12 ans, votre corps n'est pas forcément prêt à donner naissance. Elle fait partie de celles qui ont survécu à ce moment-là. Et l'une des conséquences, effectivement, c'est que vous pouvez vous couper de votre corps. Parce que après tout, il vous appartient pas. On vous a jamais permis de vous l'approprier. Et vous allez le laisser aux autres. Les autres peuvent en disposer à leur guise, ça fait pas vraiment partie de vous. Et ça, c'est perdre une partie de votre âme, mais c'est peut-être aussi un moyen de survie. Donc, il y a des conséquences psychologiques qu'on mesure pas, mais qui sont aussi là et qui ont des répercussions sur les rapports que vous pouvez avoir tous les jours avec les uns et les autres. Et ceux peut-être que vous aurez un jour avec vos propres enfants. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, effectivement, ce que disait Stella, ces sujets-là ne sont pas faciles à aborder pour tous les individus, parce que ça les ramène eux-mêmes quelque part, ou peut-être qu'il s'est passé des choses qu'ils n'ont pas livrées.
Ils n'ont pas osé dire. Stella, j'aimerais rebondir avec vous justement sur cette pression sociale finalement. Il y a des pays je pense, par exemple, les pays où il y a une forte emprise religieuse, où la tradition où dans la tradition la masturbation est interdite, car le plaisir c'est quelque chose qui se partage, c'est donc contre nature. Par exemple, pour les religieux, où il y a aussi la virginité qui doit être notamment préservée, que ce soit chez les chrétiens ou encore les musulmans. Malgré les interdits religieux et familiaux, une grande partie des jeunes sont actifs sexuellement, il faut le dire, il faut que les parents le sachent, parfois même très tôt, 13, 14 ans. Stella, comment vaincre ces peurs rarement exprimées en société ?
Je pense qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on parle de sexualité ? Dans le reportage, c'était bien expliqué qu'on se dit que plus on va parler de sexualité, plus ça va entraîner, ça va provoquer, on emmène les jeunes à pratiquer la sexualité. Mais moi, j'ai envie de poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand on leur en parle pas ? Finalement, comme disait Axel, ils sont pas protégés, ils se mettent en danger, ils n'arrivent pas à reconnaître quand ils sont même dans une situation de violence. Et ça va se perpétuer, mais tout au long de leur vie. Dans le cas des viols des petites filles, moi j'appelle pas ça un mariage, on peut dire que c'est de la pédophilie. Mmh. Et du coup, dans ce cas-là, les petites filles n'ont pas le choix, on va dire. On n'a pas un cerveau qui, certaines s'en sortent, certaines survivent à ces droits qui leur sont retirés. Quand on n'est pas dans ce cas, il y a des choses à faire. Il faut parler de sexualité aux jeunes, il faut en tout cas leur donner l'accès à l'information qui leur permettra de faire des choix éclairés. Et c'est là où les angoisses n'existent pas. La sexualité, ça fait partie de notre vie, c'est quelque chose qui est central, qui est naturel, et ça peut être quelque chose de très très sympa si on a les informations.
Justement, partager l'information, c'est ce que vous faites dans votre podcast, Axel. Alors, on arrive déjà à la fin de notre discussion, mais parlez-nous justement de ce projet Me, My, Sex and I, ce podcast qui a été mis en place. Pourquoi
Parce que c'est le podcast que j'aurais aimé entendre, Diane tout le disait tout à l'heure, quand j'avais 15 ans. J'aurais aimé qu'on s'intéresse à l'intimité des personnes noires, en l'occurrence des femmes. Moi, j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de femmes. J'ai été éduquée par deux hommes. Il y a des choses qui pouvaient être dites, mais qui n'auraient pu m'être dites que par des femmes. Et en fait, j'ai juste créé l'outil en fait que j'aurais aimé pouvoir avoir à disposition aujourd'hui pour le mettre à disposition d'autres jeunes femmes, en partant du postulat que, en tant que membres de la diaspora, nous avons une responsabilité en fait sur ces questions de l'intime. Nous sommes dans des espaces où il est peut-être plus facile de les aborder que des jeunes filles qui sont aujourd'hui encore au pays. Et si nous on dispose de cette amplitude-là, autant en profiter pour distiller peut-être des choses qui peuvent leur être utiles. Et vraiment, le propos, c'est celui-là, quoi.
C'est vraiment des podcasts formidables. Je le recommande vivement et on mettra bien entendu les liens.
Merci.
Alors, je vous laisse le mot de la fin à dire à tout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous nos auditeurs qui ont écouté cette belle émission autour des tabous de la sexualité chez les jeunes?
Bah, si vous pouvez donner les outils que vous pouvez à vos enfants pour parler de sexualité, je pense que même en tant qu'adulte, on continue tout le temps à s'informer sur la question, on découvre des choses. Donc, et je remercie aussi Axel, Stella, Audrey pour leurs initiatives qu'on a eu le plaisir d'avoir à notre festival Fresh Women l'année dernière.
Absolument.
Et qu'on a même eu le plaisir avec Axel deux fois de faire une table ronde pour parler de ces sujets de sexualité avec des hommes dans le public. Donc, encore une fois, ça concerne aussi les hommes.
Et vous abordez Audrey que nous recevons dans cette émission, donc c'est très très intéressant. On va poursuivre tout cela. Merci infiniment en tout cas d'avoir participé à cette émission.
Merci
à dire à tout. Et merci à vous, Axel, sans oublier Stella qui était en ligne avec nous. Merci à vous, Stella.
Merci.
Alors, on dit quoi, Diaranjay?
Et la semaine prochaine, c'est la rentrée. Nous reviendrons avec de nouvelles thématiques. D'ici là, n'hésitez pas à réagir et interagir avec nous. Notre numéro de téléphone, WhatsApp est le 33 647 740 742. N'oubliez pas que nous avons également notre page Facebook et Instagram. c'était Ndimbambe de IVK featuring Ndombi Music.
Alors on dit quoi?
On en parlait il y a quelques instants avec les invités qui étaient avec nous sur ce plateau. Les tabous autour de la sexualité exposent les jeunes aux grossesses non désirées, au VIH et à d'autres infections sexuellement transmissibles. Les jeunes se posent pourtant beaucoup de questions concernant la sexualité, la puberté. Et s'informer en matière de santé sexuelle et reproductive, c'est possible. Et c'est ce que nous montre Audrey, cofondatrice des Rendez-vous Sexcare. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors, on parle des tabous, de la sexualité depuis le début de l'émission. Révélez comment vous faites pour libérer la parole justement à ce sujet, Audrey.
Ben, pour libérer la parole, on en parle. C'est ce qu'on fait en fait avec l'initiative que j'ai co-créée avec Stella.
Stella qu'on a vu en ligne,
oui,
c'est
voilà.
Sexologue.
Exact. L'initiative qui s'appelle les Rendez-vous Sexcare. Créé bientôt, depuis un an et demi. Mmh. On était toutes les deux intervenantes sur un workshop. À la sortie de ce workshop, on s'est posé l'une et l'autre et on s'est dit, mais en fait, il y a un sujet sur lequel, en tout cas, on ne parle pas suffisamment et qui n'est pas mis en lumière comme il devrait. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose à faire sortir un peu de nos têtes. Mm-hmm. Et donc très rapidement, on a créé donc les Rendez-vous Sexcare qu'on a mis en place du coup l'année dernière au moyen d'ateliers mm-hmm. qu'on faisait donc une fois par mois. On accueillait à peu près 8 à 10 personnes autour d'une thématique, donc toujours avec en fond bien entendu la sexualité et particulièrement la sexualité des femmes. Mm-hmm. Et donc on s'est rendu compte que avec la création donc de ces espaces, il y avait une demande, il y avait aussi un public et il y avait aussi des informations à faire passer.
Mais donc, comment fonctionnent ces ateliers alors ?
Alors comment fonctionnent ces ateliers ? Donc l'année dernière, ils fonctionnaient donc comme je vous disais un atelier par mois mmh. autour d'une thématique. Donc au début, on a commencé à parler par tout ce qui touchait le corps, la body positive, l'anatomie aussi, parce qu'on s'est rendu compte que on connaissait très peu notre corps, mmh. même nous femmes. Donc voilà.
Tout à l'heure justement, Stella nous décrivait l'anatomie oui. féminine et expliquait que c'était bien finalement de donner un miroir à sa oui. fille pour montrer
exactement comme on est. Et donc c'est vrai que nous pendant l'atelier, on a exposé aux participantes qui étaient là ce jour-là, donc l'appareil génital féminin. Et donc, on était toutes devant et on s'est posé beaucoup de questions. Donc, c'est important de savoir comment on est faite. Et donc, tout le long de la saison qui s'est passée l'année dernière, on a parlé donc des droits sexuels, on a parlé du désir, du plaisir, des maladies, des douleurs. On a essayé d'aborder le sujet de la sexualité de façon large. Et donc, ça a été assez bien accueilli. Et c'est vrai que du coup, cette année, pour s'engager encore plus, on va dire, entre guillemets, sérieusement, mais en tout cas pour avoir une empreinte, pour pouvoir faire beaucoup plus de choses et accueillir beaucoup plus de monde, on a créé donc l'association depuis cette année. Et donc, on s'organise comme ça aujourd'hui. Et donc, on est en train d'organiser donc un week-end qui aura lieu au mois de juin à Paris. Et puis surtout, on a un gros projet
où il y aura justement oui, donc
des ateliers aussi toujours, pareil, donc sur la santé sexuelle, le désir, le plaisir. On va aborder tous les sujets, voilà, les minorités aussi sexuelles. En fait, vraiment, une immersion totale.
Les minorités sexuelles.
Oui, tout ce qui concerne. C'est vrai que j'utilise de moins en moins ce terme LGBTQIA, mm-hmm. mais tout ce qui voilà. Tout ce qui concerne les queers, les personnes qui
les homosexuels.
Voilà.
Ouais, d'accord. Ouais. Et pourquoi est-ce si important pour vous d'en parler aux jeunes, mais notamment aux femmes surtout?
Bah déjà, étant femme, c'est déjà beaucoup plus facile, en tout cas pour moi, de m'adresser à des personnes qui me ressemblent ou qui.
Parce que les hommes sont exclus de ces ateliers?
Alors. C'est en non-mixité, effectivement. Non-mixité, oui. Non, on n'accueille pas les hommes dans nos ateliers. Pourquoi? surtout parce que voilà, on se rend compte que des femmes même adultes, si on peut dire, ont des lacunes en fait, tout ce qui concerne les droits sexuels, les droits reproductifs, la santé sexuelle, comment se protéger, le consentement. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des mots qui commencent à devenir assez communs dans le langage,
mais c'est récent,
c'est
finalement.
Récent, c'est très
vous,
récent.
Vous justement, vous êtes juriste. Les droits des femmes sont particulièrement importants pour vous. Comment expliquer que beaucoup de femmes ignorent leurs droits?
Comment ça se fait? On évolue encore dans des sociétés très patriarcales, dans lesquelles les femmes sont soumises à différentes règles. Et donc c'est vrai que pour accéder à des droits ou même se faire entendre, on est obligé de batailler. Voilà, c'est dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Font que voilà certaines informations sont pas accessibles et puis pour les femmes.
Alors Audrey, juste avant de clôturer notre petite discussion, dites-nous quand auront lieu les prochains rendez-vous des ateliers Sexcare.
Donc les prochains rendez-vous auront lieu les 15 et 16 juin à Paris. Deux journées consacrées donc à la sexualité.
La thématique,
il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. Bon, on va pas les évoquer, voilà. On donne rendez-vous à tous nos auditeurs à vos prochains ateliers.
Merci
infiniment.
Merci
Audrey.
Beaucoup.
Échange avec nous sur Facebook et WhatsApp au 33 647 740 742.
Et tous les samedis, alors on dit quoi, décrypte des infox. On vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme et JICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africa Tchèque. Et je suis justement en compagnie de notre chroniqueur pour en parler. Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une fausse rumeur qui a récemment circulé au Cameroun.
Oui, Diara, une rumeur qui a largement circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias, elle prend pour cible Edge Johnson, le fils de l'ancien basketteur américain Magic Johnson. Edge Johnson est présenté comme un ambassadeur de l'UNESCO qui a été interdit de séjour au Cameroun parce qu'il est homosexuel. Important de souligner, Diara, que l'homosexualité est punie par la loi camerounaise qui fixe des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison et une amende variant de 20 000 à 200 000 francs CFA pour toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.
Qu'en est-il réellement, Valdez?
La chargée de communication du ministère camerounais de l'administration territoriale nous a confié que c'est nous qui lui apprenons cette nouvelle. Elle a indiqué toutefois que si cette information a été communiquée par le ministère de l'administration territoriale du Cameroun, elle n'a pas été traitée par son département. Mais c'est une histoire montée de toutes pièces selon l'UNESCO. Le chargé de la communication du bureau régional de l'UNESCO en Afrique centrale a même crié à la fake news, Diara. On a aussi consulté la liste des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO et aucune trace d'Edge Johnson sur cette liste.
Et je signale à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver un article sur le sujet sur votre site internet africatech.org. Merci Valdez.
Merci Diara et à la semaine prochaine.
Elle est belle, elle a une belle voix, elle s'appelle Founé Bella. Encore un mot qui commence par B pour vous dire qu'elle ne fait que de bons sons. Je vous propose cette semaine de découvrir la chanteuse de Bamako au Mali, de son vrai nom Founé Mousso Traoré et son titre Déception.
Coucou Jaranjaï, je suis Founé Mousso Traoré alias Founé Bella. Une jeune artiste malienne de 34 ans, auteure, compositrice, musicienne, interprète. Le morceau Déception, c'est une déception amoureuse que j'ai vécue moi-même et qui est d'actualité surtout avec la nouvelle génération. En Bambara, là où j'ai dit Jimmy Bona Kabatese Kachetugu, Kumabe Yafadeli Kumabe Kamfunu, ça veut dire que l'eau déjà versée n'est plus récupérable. Et chaque fois, me demander pardon commence à me saouler. Chaque fois, tu me promets de ne plus me briser le cœur. Et il suffit que j'ai les dos tournés pour que tu commences encore à faire des bêtises. Donc si l'amour est basé sur le mensonge, la trahison, alors moi je suis bien, j'en ai marre, je me casse. Tout le monde peut avoir des chagrins d'amour, tout. C'est pour ça, dans la chanson, j'ai chanté moitié bambara, moitié français, pour que celles et ceux qui ne comprennent pas ma langue puissent comprendre en grosso modo ce que je veux dire. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous les auditeurs et auditrices de RFI et à vous, Diara, spécialement. Gros, gros, gros bisous à vous et bonne fin de journée. Bye bye. Don't go to get this thing in your
Alors, on dit quoi? C'est aussi une émission qui propose d'améliorer notre quotidien avec Joanne. Bonjour Joanne.
Bonjour Diara.
Aujourd'hui, on parle d'hygiène intime et ça tombe bien puisqu'on a parlé des tabous autour de la sexualité, Joanne.
Oui, tout à fait. Et à ce propos, j'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup d'idées reçues à déconstruire. Dans la plupart de nos familles africaines, les sujets liés à l'intimité sont tabous. Résultat, beaucoup de jeunes filles développent de mauvaises habitudes, notamment au niveau de l'hygiène. Entre les conseils des copines et les conseils trouvés sur Internet, que faut-il croire ? Pour décortiquer tout ça, je vous partage les bonnes pratiques, celles qui sont recommandées par les médecins.
Très bien, alors par quoi on commence ?
On commence par faire sa toilette intime une fois par jour. Pas plus, pas moins. En période de règles, vous pouvez aller jusqu'à deux fois, mais retenez que si vous vous nettoyez trop souvent, vous allez affaiblir votre flore vaginale. Les gels douche, les savons, les antiseptiques moussants sont à bannir quand on veut faire sa toilette intime. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent du parfum et d'autres agents agressifs qui déstabilisent la flore vaginale. Il vaut mieux utiliser des gels lavants doux qu'on retrouve en pharmacie. Vérifiez bien qu'ils sont sans savon et sans conservateur. Et si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer, de l'eau propre et tiède suffit amplement. Le vagin crée déjà, grâce à ses sécrétions, un environnement propre et équilibré.
On parle beaucoup de douche vaginale, pour ou contre ?
Voilà vraiment une fausse bonne idée. Les filles, arrêtez les douches vaginales et faites passer le mot à vos copines. Cette technique détruit votre flore vaginale. Il faut savoir que la flore vaginale est composée de plusieurs types de bactéries qui créent son équilibre. La douche vaginale va évacuer les bactéries naturellement présentes à l'intérieur et créer des infections. Comme je l'ai déjà dit, la nature a été bien faite. Le vagin se nettoie tout seul, pas besoin de venir perturber son fonctionnement à l'intérieur. La toilette doit donc se faire en extérieur, sur les lèvres. Évitez aussi les gants de toilette et les éponges, parce que ce sont des nids à microbes. En les utilisant, vous vous infectez au lieu de vous nettoyer. Le plus simple, c'est d'utiliser vos mains. Assurez-vous qu'elle soit propre avant de vous en servir et nettoyez-vous de l'avant vers l'arrière, surtout pas dans le sens contraire, afin d'éviter de transférer des bactéries fécales vers votre vagin.
Et côté sous-vêtements ?
Privilégiez les sous-vêtements en coton. Les tenues synthétiques empêchent l'air de passer correctement et favorisent la création de bactéries. Il est aussi fortement recommandé de ne pas porter de sous-vêtements quand on dort. Tous ces conseils ont pour but de laisser respirer au maximum vos parties intimes. Mais s'il y a une chose à retenir en ce qui concerne l'hygiène intime, c'est d'aller au plus simple. Votre vagin vous en remerciera.
Merci infiniment, Joanne, pour tous ces conseils. Avec nous également en studio, Anna. Bonjour, Anna.
Hello, Diara.
Alors, aujourd'hui, vous nous emmenez à Bamako.
Absolument, Diara. Et je vais vous présenter un espace culturel qui deviendra certainement votre espace culturel préféré de Bamako. Il s'agit de la maison agoratoire ou la maison du slam.
Le slam, c'est bien cette forme de poésie orale ?
Tout à fait, et de plus en plus de jeunes souhaitent pratiquer cet art et se perfectionner. Cette maison organise entre autres des résidences culturelles, des ateliers d'écriture autour du slam et du théâtre, des ateliers de danse, d'art plastique, et assure la promotion de jeunes talents et artistes en général. Elle a été créée depuis 2008 par Abdul Koné, slameur lui-même, et est vite considérée comme une référence dans le milieu culturel malien à travers son initiative à hisser la culture du slam plus haut.
Et alors comment fonctionnent ces ateliers ? Est-ce qu'ils sont payants ?
Ces ateliers sont gratuits. La maison exige un prix forfaitaire juste pour payer les artistes qui viennent assurer une formation, notamment dans la diction, les techniques durant la déclamation, pour les techniques bien spécifiques en fait. Cette maison est à l'origine du Festival international du slam et de l'humour du Mali et de la compétition nationale du slam, de Bamako Slam Show, et elle accueille des artistes pour une multitude de spectacles. La maison Aguaratoire a formé un bon nombre de jeunes en slam à Bamako et surtout dans les autres régions à travers la compétition nationale du slam. Elle a instauré le slam dans les classes primaires et dans certaines écoles afin de faciliter son apprentissage.
C'est une superbe initiative de l'instaurer dans les écoles dès le plus jeune âge.
Je suis d'accord avec vous, Diarra, sachant que le slam aide au développement personnel. C'est une manière de s'autoproclamer, de se prononcer non seulement sur soi-même, mais aussi de s'exprimer sur les choses qui se passent dans le monde et dans son environnement. C'est un art d'ouverture au monde, en fait, de la libre expression. J'invite donc tous les amoureux du slam et les curieux à visiter la page Facebook de la Maison Aguaratoire afin de prendre connaissance de l'agenda et de cet espace culturel.
Merci Anna.
Au plaisir Diarra.
Alors on dit quoi ? C'est déjà terminé. Merci infiniment de nous avoir suivis. Samedi prochain, c'est la rentrée. Nous vous préparons de nouvelles surprises. Et sinon, n'oubliez pas que l'on peut interagir ensemble via les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous sommes là pour vous. Et pour réécouter l'émission, eh bien rendez-vous sur le site de RFI, sur Google Podcast ou sur iTunes. Merci infiniment à toute l'équipe, la formidable équipe d'Alors on dit quoi, Daba, Beverly, Claire, Mariam, Djibril et Guillaume. Salut, Umno Nuha Gongol, à bientôt.